Chronique d'un nouveau monde numéro 27, le 9 août 2023. Les influences hyperdimensionnelles dans la personnalité humaine et autisme, dissociation et revenant psychique.
La psychanalyse ne croit pas aux esprits, mais enseigne tout de même que le résultat de la transmission inconsciente à un individu d'un contenu psychique troublant exprimé par des émotions inhabituelles et incongrues, ou même des comportements étranges ou singuliers, provient habituellement d'un parent, d'un aïeul ou d'un proche décédé. Dans ces cas, cet individu serait d'ordinaire qualifié de schizophrène. Mais lorsque des événements intellectuels ou des aspects affectifs entrent en ligne de compte, l'individu investi par l'esprit d'un ancêtre est alors souvent considéré dans notre monde de troisième densité comme haut potentiel émotionnel, parfois haut potentiel intellectuel ou alors autiste. Ces entités ancêtres représenteraient donc ce que les croyances populaires, celles de l'humanité ignorante et illusionnée, appellent un spectre, un revenant ou une possession. Généralement perçu et décrit comme un complexe psychique, prenant parfois une apparence physique émergeant alors des mondes de l'astral, ces revenants ne peuvent parfois être perçus ou entrevus que par ceux à qui ils s'adressent. Les spécialistes expliquent le phénomène comme étant essentiellement induit par des résurgences de culpabilité mélangées à des secrets de famille qui, par le biais de l'inconscient, seraient transmis de génération en génération ou d'un individu à l'autre. Voir à ce propos la chronique numéro 3, Prisonnier des murs, prisonnier du passé, voir le lien sur notre site. Le psychanalyste Bruno Clavier en parle dans sa vidéo « Transgénérationnel, quand les traumas de nos ancêtres vivent en nous », voir le lien sur notre site. Nous, les enquêteurs Léo, avons coutume de dénommer ces phénomènes de possession ou d'attachement « processus d'altérisation ». Pouvant parfois mener à des phénomènes de dissociation psychique, le mécanisme est souvent très difficile à assumer par les personnes concernées, puisqu'il a souvent comme origine des manipulations hyperdimensionnelles. En effet, dans la séance du 18 mai 2019, les Cassiopéens remarquaient à ce sujet. Question, Laura. Pour se protéger contre les manipulations hyperdimensionnelles et les dommages, je dirais que l'une des premières choses à faire est d'éviter de se dissocier. Réponse, oui. Question, Artemis. Et ne nourrissez pas les boucles de pensée négatives. Laura, oui, si vous vous dissociez, tout d'abord, vous êtes dans un fantasme, c'est-à-dire que vous ne faites pas attention à la réalité. Deuxièmement, tu as des pensées négatives et tu te mets dans des boucles de pensée négatives. Cela me semble être l'un des points les plus importants. Ai-je raison là-dessus? Réponse, en effet. Voir le lien sur notre site. À travers nos propres expériences de groupe, nous savons que les phénomènes d'altérisation ne sont pas uniquement liés à des mécanismes d'attachement d'esprit provenant d'individus décédés en troisième densité. Ils sont beaucoup plus souvent qu'on ne pourrait l'admettre, activés par des phénomènes d'interpénétration de mondes qui, fréquemment assimilés à de la dissociation en direction des mondes hyperdimensionnels, sont des effets générés par des entités physiques ou pas, habiles à manipuler notre perception de la réalité, donc de l'espace-temps. Nous avons également remarqué que la plupart du temps, le phénomène d'altérisation produit effectivement des boucles de pensée négatives qui témoigneraient en quelque sorte de l'existence d'un mort enfoui dans le suivant. Ce mécanisme, qui nous fait nous échapper de notre réalité présente, resterait un fantasme qui insérerait des mémoires du passé ou du futur dans notre conscience, réalité du moment. En effet, l'inconscient de l'humain ignorant peuplant le monde de troisième densité est saturé d'esprits possessifs qui voyagent dans le temps, d'ancêtres accrochés à leur descendance ou à des relations, voisinage, amis, etc., qu'ils continuent d'obséder. Parfois, ils les hantent même à travers des symptômes, des douleurs ou des stigmates physiques. Ces fameux attachements d'esprit se présentent donc comme des manifestations prétendument paranormales que les thérapeutes ou les hypnothérapeutes tentent de résoudre. Toutefois, tellement persuadé de pouvoir emmener ces entités hyperdimensionnelles qui manipulent l'astral au niveau d'une dimension de comportement et d'intelligence humaine, ces thérapeutes orgueilleux restent eux-mêmes absolument incapables de percevoir l'inintelligence de leur ego astralisé. En exemple, voir la vidéo de Nathalie Knepper qui prétend chasser les entités. 1, 2, 3, FR Philippe, préparer l'invasion, hypnose régressive ésotérique, Tim Griffasi. Voir le lien sur notre site. Le mécanisme de la dissociation nous amène aussi, en certaines occasions, à contacter des mondes parallèles, voire supérieurs de quatrième densité, cette fois bien vivants et réels, sans forcément produire de boucles répétitives négatives. Dans ce cas, la dissociation vers les mondes supérieurs nous relierait alors plutôt à ce que l'humain ordinaire pourrait percevoir comme la progression d'un futur déjà bien installé, tandis que le monde de nos alter-ancêtres décédés représenterait le monde de l'astral de troisième densité, c'est-à-dire notre réalité actuelle, dans laquelle le prochain mort sur cette liste des morts dans l'astral serait tout humain ordinaire et ignorant encore vivant aujourd'hui. N'est-il pas vrai que notre monde humain actuel est devenu un monde de zombies, un monde de mensonges, d'impostures, de traîtrises et de bêtises, un monde à l'envers dans lequel très peu de gens ont conscience de l'occulte, c'est-à-dire des vraies vérités qui leur sont cachées? Ignorant même l'existence des densités de réalité supérieure, la plupart des gens ne sont absolument pas en mesure de comprendre tous ces phénomènes dits surnaturels ou mystérieux qui font intrusion dans la réalité de leur monde. Se croyant réellement vivants, parce qu'ils sont dotés d'un corps bien physique, tous ces individus non éveillés à la vraie réalité restent tout bonnement profondément endormis dans leurs innombrables croyances et fantasmes réflexes, notamment des stimulations psychiques passives et des pensées non réfléchies. Provenant tout simplement des mémoires astralisées de leur âme, leurs illusions persisteront aussi longtemps que leur esprit n'aura pas fusionné avec leur corps actuel. Les gens ordinaires, c'est-à-dire le public non averti et inconscient des lois universelles telles celles de la fin d'un cycle humain, ne peuvent pas comprendre comment, grâce au code de ce fameux ADN non codant, ADN poubelle, amélioré par l'ARN messager, transporté par les virus cométaires, l'être humain sera appelé à s'éveiller puis à changer de densité de réalité. En effet, grâce au réagencement de sa génétique par l'épigénétique, il pourrait apprendre, s'il ne se vaccinait pas, à se reconnecter à un monde de fréquences vibratoires supérieures qui, par intercalation d'une sorte de néo-tissu informationnel, reconfigurerait également son monde actuel en néo-réalité de quatrième densité. Grâce aux lois universelles de la transmission télépathique, ce champ informationnel lui offrirait alors des réponses à absolument tous ses questionnements et abolirait toutes les peurs et problèmes existentiels de l'individu. Il est donc possible à tout vrai humain réellement éveillé de devenir télépathe grâce au crochet protéinique de son ADN qui le reconnecterait à cette zone d'intelligence informationnelle, autrement dit à un espace de conscience beaucoup plus étendu et élevé que son intelligence égotique humaine. La science moderne appelait cette zone d'intelligence supérieure « champ morphogénétique ». Mais au niveau hyperdimensionnel, cet espace de conscience supérieure n'est autre que la conscience de l'esprit lui-même. Autrement dit, une fois connecté à cette zone d'intelligence ou de conscience hyperdimensionnelle, le vrai être humain serait donc à la fois capable, à travers un centre de conscience universel auquel tout le monde est naturellement relié, de communiquer avec ses ancêtres et avec des consciences plus évoluées que lui. Cette correspondance psychique avec des entités transdimensionnelles, c'est-à-dire des formes pensées appartenant à d'autres mondes, pouvait commencer à devenir tangible grâce aux nouveaux codes génétiques insérés dans l'ARN messager des virus cométaires, eux-mêmes capables de produire chez certains humains de nouvelles structurations dans leur schéma de pensée. Ces épisodes de restructuration de la pensée que nous éprouvons parfois en étant dissociés posent problème à notre ego humain qui, lui, refuse de croire à la possibilité de percevoir ou de communiquer avec les autres mondes de l'astral. En effet, Savoir communiquer par exemple avec des ancêtres décédés, vibrant leur onde psychique à travers les pensées d'individus récepteurs, fait partie des facultés de certains humains qui peupleront le monde de quatrième densité du futur. Et assimiler ces facultés de communication supraluminique, parce que désormais nous nommons le processus de fusion avec l'esprit, serait ce que les Cassiopéens ont voulu nous faire comprendre par « nous fusionnerons avec vous ». Extrait de la séance du 10 décembre 1994. Question. Ces aspects de nous-mêmes se dirigent-ils en ce moment même vers la Terre dans le cadre du passage de la frontière entre les mondes ? Réponse. Oui. Devrons-nous tous faire face à ces aspects de nous-mêmes sous forme d'êtres différents ? Oui. Y a-t-il d'autres parties de nous-mêmes dans la totalité des mondes qui sont en train de faire autre chose en ce moment ? Réponse. Oui. Question. En quoi tous ces aspects seront-ils affectés par le passage de la frontière entre les mondes ? Réponse. Fusionneront. Question. Donc, quand l'onde atteindra la Terre et que vous communiquerez avec quelqu'un quelque part ailleurs, vous vous présenterez comme des terriens ? Réponse. Quand l'onde atteindra la Terre, nous fusionnerons avec vous. Question. Vous êtes simplement une autre partie de nous-mêmes ? Vous, nous, les lézards, les fourmis, les gris, les arbres ? Réponse. Nous sommes votre être entier, c'est-à-dire vous, nous, en sixième densité. Question. Alors, ce que nous nous efforçons de devenir, c'est vous ? Vous êtes nous ? Réponse. Oui. Question. Mais vous nous avez dit que vous aviez contacté d'autres personnes sous d'autres noms ? Réponse. Oui. Question. L'avez-vous dit aux autres ? Réponse. Non. Question. Pourquoi n'avez-vous pas contacté les autres pour le leur dire ? Réponse. Venons de répondre. Progressif. Question. Êtes-vous toujours en contact avec Barbara Marcignac ? Réponse. Pas en ce moment. Elle est en mode pause. Question. Le sait-elle ? Réponse. Oui. Écrivez-lui et dites-lui d'appeler Cassiopée. Le prochain arrêt est le lion. Question. À un moment donné dans le futur, le prochain point d'émission sera le lion. Cela signifie-t-il qu'à un moment donné, nous ne pourrons plus vous contacter ? Réponse. Nous venons juste de vous dire qui appeler. Question. Eh bien, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on doit appeler un certain point de l'espace. Nous sommes actuellement en contact. Ce canal ne reste-t-il pas ouvert ? Réponse. Point de référence. Voir le lien sur notre site. Au sein de notre groupe expérimental Léo, l'un des centres de conscience de la constellation du Lion mentionné par les Cassiopéens, nous commençons à acquérir quelques notions de ce que nous comprenons déjà du phénomène de fusion avec le soi supérieur, l'esprit, également décrit par Bernard de Montréal ou Daniel Kemp. Ces notions et les compétences particulières qui en émergent découlent parfois de ce que nous appelons également phénomène de dissociation. Mais avant de commencer à fusionner avec l'esprit, certains individus parmi les Léos avaient effectivement dû expérimenter et apprendre de leurs dons de dissociation afin de comprendre le vrai sens du service d'autrui qui, nous le comprenions bien après, devenait une étape importante de la réintégration des âmes altérisées se produisant avant la fusion avec l'esprit. Ce don de dissociation pouvait ainsi nous restituer des informations provenant d'autres plans de réalité, mais qui souvent restaient enfouies dans notre inconscient jusqu'au moment où elles devenaient utiles. La fusion avec l'esprit provient elle-même d'une métamorphose progressive résultant de la libération de nos parts, subsistant encore dans l'astral planétaire. Cette libération progressive commence à être expérimentée par certains d'entre nous. Elle a notamment été accélérée et quelque peu avantagée parce que nous travaillons et discutons sans relâche de nos ressentis et expériences en groupe. De surcroît, l'activation du processus a été facilitée par l'expérimentation de l'énergie du 3. Voir la chronique 26, voir le lien sur notre site. Très confrontante, cette expérience reste difficile et douloureuse à assumer. C'est probablement pour cette raison qu'elle n'est pas suggérée ni révélée à tout le monde. Mais il s'agit bien là de l'un des avantages à la vérifier. Expérimentée physiquement et psychiquement, l'expérience par la triplique activité peut effectivement devenir risquée si nous assimilons ces échanges à de la simple sexualité. Car les échanges sexuels, de la manière dont ils sont perçus et pratiqués dans les mondes astralisés de troisième densité, c'est-à-dire en occultant le centre sexuel supérieur, peuvent conduire à des dissociations quasi insolubles, parfois même à de la folie incurable. Il peut donc être dangereux pour l'âme esprit d'un individu de rester piégé de son vivant dans les mondes de l'astral, à la manière des voyageurs Avengers suspendus dans le non-temps. Voir à ce propos le cahier 7.5, lien sur notre site, l'individu pourrait alors rester mentalement déséquilibré. C'est probablement pour cette raison que les Cassiopéens ont exhorté les personnes du groupe d'études formé par Laura Knight d'éviter de se dissocier. Mais les Léos expérimentant parfois la dissociation au sein du 3, celui qui, lors de la séparation de l'âme-esprit de son corps, se dissociait dans ces moments-là vers d'autres réalités provenant de son passé, pouvait être accompagné par les autres à ramener des imprégnations énergétiques précieuses, notamment des informations inconscientes à décoder par autrui et revenir dans sa réalité présente. Nous avons constaté que le phénomène de dissociation produit par l'expérience de la triplicativité est un canal des plus puissants pour percevoir l'origine du comportement d'un individu lorsqu'il est piloté par ses altères ou directement par des entités SDS des plans supérieurs. Par expérience, et nous l'avons également remarqué, lorsque certaines mémoires importantes ont été libérées du champ magnétique de l'âme, c'est-à-dire lorsque leur origine ont été mises à jour dans des incarnations passées, il s'en suivait parfois des phénomènes étranges. Ceci ressemblerait à de fortes sensations de combustion interne, ressemblant à de fortes brûlures thermonucléaires intérieures, dont nous sommes parfois sujets, dans le sens où ces symptômes affecteraient notre structure physico-biologique dans l'infiniment petit de l'atome. Ces sensations de très forte chaleur, souvent douloureuses, parfois à la limite du supportable, touchent épisodiquement les extrémités, particulièrement les mains, mais surtout la zone d'activité des centres énergétiques du ventre, de la poitrine et de la tête. Elles sont généralement confondues avec des symptômes grippaux ordinaires ou un dérèglement du microbiote intestinal imputé au virus du COVID-19. De concert avec les Cassiopéens, l'ange, notre centre de conscience supérieure, affirmer que cette forte chaleur était attribuable à des phénomènes de transfusion de réalités alternatives, se déclarant lors de la fusion de notre corps avec l'énergie de notre double ou avec celle d'un alter pourvu d'une fréquence plus élevée. Ce feu intérieur serait donc perceptible lorsque nous fusionnons avec nous-mêmes à partir d'une autre réalité. Alors, pour en savoir encore plus à propos de ces phénomènes de fusion et de transition de réalité, nous avons encore questionné notre ange.
Question à l'ange. Quels seraient les critères, s'ils existaient, qui provoqueraient le processus de fusion avec l'esprit tel qu'annoncé par les Cassiopéens ou Bernard de Montréal ?
Il s'agit de comprendre que lorsqu'elle sera accomplie dans sa totalité, la fusion de l'esprit avec votre corps physique actuel transbordera automatiquement, à un moment donné, votre corps de matière dans les mondes de quatrième densité. Le besoin de réincarnation du corps y sera alors aboli. Le processus de fusion dépend avant tout de l'individu, de sa personnalité, de son autodiscipline, de sa foi en son esprit supérieur, son soi supérieur. Ce processus de fusion, déjà entamé par quelques petits groupes d'individus sur la planète, se prolongera encore pendant plus de 2000 ans pour le restant de l'humanité. Cette fusion avec l'esprit supposerait que l'individu ayant entamé la libération de ses mémoires astralisées par un intense travail sur lui-même, entraînant un profond changement intérieur, verra de plus en plus de modifications notables dans sa réalité extérieure de troisième densité. Autrement dit, et comme le souligne également Bernard de Montréal, lorsque la conscience atomique de l'humain est suffisamment avancée, le rayon, le rayonnement de l'intelligence supérieure ou esprit, ne crée plus de souffrance dans l'humain, car ce dernier vit sa vie matérielle en harmonie avec la conscience de son esprit. Voir le lien sur notre site. Comme nous l'avons déjà dit, l'homme ne sera donc plus esclave de la matière, mais la matière sera entièrement à son service. C'est ainsi que le début du changement, induit par cette nouvelle forme d'expression de la conscience, produira une nouvelle fréquence d'onde de gravitation, donc une autre réalité. Et c'est aussi pour cette raison que le véritable travail sur votre soi intérieur est devenu le vrai combat contre la réalité de votre monde de troisième densité, contre tout ce qui existe dans votre esprit. Mais si vous continuez à combattre, à lutter, à manifester contre les lois, les règles, contre tout ce que les dirigeants et leurs gouvernements, les institutions, les médias étalent ou exhibent dans le monde extérieur, votre combat aurait été perdu d'avance. Cela dit, rêver de paix dans le monde est digne et imaginatif, mais n'est pas la réalité de votre monde ici. Le rêve, l'imaginaire, est pourtant le berceau de nouvelles idées, de l'intuition, de la réflexion. Mais très peu de gens sont déjà psychiquement assez mûrs et suffisamment libérés de leur émotionnel pour accepter les idées nouvelles découlant de leurs rêves, de leur imagination. De plus, si ces idées nouvelles ne répondent pas aux illusions sur lesquelles leur ego s'est construit et contre lesquelles sont toujours organisés leurs combats psychiques intérieurs, ils continueront à vouloir s'échapper de leur réalité matérielle, à se dissocier vers l'astral. Leur monde restera donc comme il est. Il serait alors essentiel que vous perceviez les utilisations positives de la dissociation, du rêve ou de l'imaginaire, en persévérant dans les processus de guérison des moments de dissociation pathologique, en partageant les uns avec les autres. Ce n'est que de cette façon que vous pouvez rester en contact avec le soi supérieur et l'esprit de la tribu. Car le temps passé dans la dissociation lucide ou bénéfique peut enrichir votre vie, vous procurer de nouvelles idées et compréhensions sur la manière de remodeler vos vies, de changer vos programmes ou de créer de nouveaux modèles de comportement. Le processus de dissociation ne devrait donc pas rester une évasion temporaire qui, lorsque vous en revenez, vous laisse piéger dans d'anciens sentiments qui vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur, pas aimable, impuissant, inutile ou pas à votre place. Cette dissociation pathologique n'a d'autre objectif que de vous engloutir dans un monde illusoire afin de vous soustraire à la vie matérielle, notamment pour ne pas avoir à faire face à vos problèmes. En somme, certaines dissociations pathologiques sont purement du vol d'énergie provoqué par quelqu'un d'autre, un altermour provenant du monde de l'astral qui, au lieu de trouver la source de sa propre créativité, la vole à travers le psychisme de son hôte. Les visions qui émergent lors de dissociations ne sont donc jamais intrinsèquement destructrices. Elles peuvent parfois être très utiles, car sont souvent source d'activité créative. L'importance de la dissociation, lorsqu'elle se révèle bénéfique, dépend donc entièrement de son contenu, c'est-à-dire des événements qui se passent pendant cette période de sortie du corps de l'âme, et surtout des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. La science parle de la dissociation comme d'un trouble psychologique du type « trouble des multiples personnalités » (TMP) ou « trouble dissociatif de l'identité » TDI, qui se caractériserait par la présence de plusieurs personnalités distinctes, des alters qui prennent le contrôle de la personnalité principale, l'hôte. Ce dernier ignore généralement l'existence de ces alters et ne garde aucun souvenir d'en avoir été investi. D'après les spécialistes, le trouble dissociatif de l'identité figure parmi les troubles dissociatifs les plus controversés et serait causé par des états modifiés de conscience, EMC, lors d'un traumatisme physique et ou d'un choc psychique, se produisant parfois simultanément. Cet état d'être, entre deux mondes, peut être confondu par les profanes avec un classique état de choc provoqué lors d'un accident. Souvent, afin de poser un diagnostic de trouble dissociatif de l'identité, le patient devait répondre à plusieurs critères, dont celui d'avoir été violenté par l'un de ses proches. L'une des particularités du trouble envahissant du développement, TED, parmi ces troubles dissociatifs de l'identité et l'oubli total par la victime d'un viol par un parent. En troisième densité, cette amnésie traumatique du trouble envahissant du développement est généralement source de boucles karmiques répétitives. Et pour en faire remonter les souvenirs enfouis, les thérapeutes compétents appliquent des méthodes particulières, dont les thérapies de régression utilisant la suggestion pendant des états modifiés de conscience. Sous la conduite du thérapeute qui le plonge volontairement en état de conscience modifié, le sujet va avoir des flashs, des images ou des bribes de scènes du trauma originel qui, bien qu'ils soient interprétés comme des souvenirs du trauma, provoquent des états émotionnels identiques. Ces traumas peuvent parfois être enregistrés comme des scènes de vie antérieure, parfois également futures, mais le futur n'est généralement pas admis ni compris par l'esprit linéaire du thérapeute lui-même. Cela pose question sur la légitimité et la réalité des mondes explorés par les parties dissociées de l'individu. Pourtant, devrait-on dire, le futur est aussi réel que le passé, sauf qu'il n'a pas lieu dans le même monde, ni dans le même espace-temps, ni dans la même densité de réalité.
Question à l'ange. Comment, dans les mondes de l'au-delà, la conscience évolue-t-elle ?
Dans les mondes du bas astral, la conscience individuelle n'évolue pas et ne le peut pas parce qu'elle n'est plus soumise à la loi du temps et que dans cet astral, l'âme de l'individu ne s'y pose plus aucune question. Ce genre de conscience enlisée dans le bas astral est caractéristique des âmes perdues, des psychopathes ou des portails organiques ne s'étant pas éveillés, donc n'ayant pas progressé de leur vivant. Sans possibilité d'évolution, leur esprit astralisé y reste en l'état, tout bonnement parce qu'il est séparé de sa conscience supérieure. Et c'est parce qu'il était soumis à l'influence beaucoup trop rigide de l'ego, par des croyances qui lui avaient fait imaginer, durant son incarnation, être parvenu au sommet du mécanisme de l'évolution et penser déjà tout savoir, que ses âmes seront simplement recyclées dans l'énergie de l'univers. Dans les mondes de l'astral supérieur, c'est-à-dire du vivant, la conscience de l'homme évolue parce que son mental est polarisé par le mental inférieur et le mental supérieur, qui tous deux sont sujets à l'influence du temps. L'opposition entre le mental inférieur, régi par l'ego dit négatif, et le mental supérieur, régi par le soi, qui n'est pas à confondre avec le soi supérieur, s'exprime par le fait que vous vivez dans un monde de dualité. Pourtant, vous savez déjà que vos pensées influencent votre vie qui découle, soit du mental inférieur lorsque vos pensées sont pilotées par l'ego, soit du mental supérieur lorsqu'elles sont insufflées par l'âme-esprit. Pour le moment encore sur Terre, c'est plutôt le mental inférieur qui gouverne la vie de la plupart des gens à leur insu. Mais la race humaine a délibérément choisi d'expérimenter les mondes astralisés par et à cause de sa programmation génétique, pour pouvoir participer à l'évolution des mondes et de leur civilisation. Aujourd'hui, à la fin de ce cycle du monde humain, votre psychisme est en train de basculer progressivement vers une polarité de pensée de plus en plus évolutive et positive, c'est-à-dire vers votre vrai soi. D'ailleurs, la plupart d'entre vous commencent déjà à maîtriser leurs pensées négatives, à plus forte raison que les pensées ont un véritable pouvoir créateur, puisque ce que vous pensez crée votre réalité. En somme, il s'agit donc d'un mécanisme de polarisation de l'ego qui gouverne votre mental et vos pensées. Vous avez pu aussi observer que lorsqu'il est piloté par une entité psychique parasite, l'ego du mental inférieur ne vit que par le négatif, la séparation, la peur, le doute. À ce moment-là, branché à l'orgueil collectif planétaire, l'ego ne lit que des reflets astralisés de la société humaine, persuadé de sa supériorité dans l'univers, mais complètement ignorante des lois cosmiques. À la fin des temps, autrement dit à la fin de ce cycle, la conscience de l'homme sera redevenue celle de l'esprit, laquelle, dès ce moment-là, saura tout, connaîtra tout sur tout. Puisqu'il possède la connaissance du tout, celle de la loi de l'un, l'esprit supérieur représente les leçons des expérimentations vécues lors des incarnations sur Terre et ailleurs. Ainsi, lors de certains phénomènes de dissociation, l'entité individu ne fait que se reconnecter à l'un de ses doubles par cet esprit, qui de la même manière veille sur d'autres parties de cette entité individu séparée de l'un, vivant et existant sur d'autres plans d'existence et de réalité. Alors même s'ils effleurent un peu les phénomènes de l'après-vie, les psychiatres ignorent tout des lois de la réincarnation et surtout celle de l'impossibilité pour les êtres décédés de comprendre les choses de la vie. Ils ne savent pas que pour apprendre de ces choses et les comprendre, l'entité individu se doit d'être incarnée dans un corps. Car même si la conscience n'est pas soumise à la loi du temps, comme dans votre monde, la progression de l'intelligence de l'homme, elle, y est soumise. Son intelligence grandit durant l'expérience dans un monde matériel, parce que le cerveau est l'outil de la production de l'intelligence. Tandis que l'esprit n'a pas besoin de devenir intelligent, il est déjà depuis toujours. Mais lorsque l'intelligence de l'esprit supérieur fusionne avec l'inintelligence humaine, c'est-à-dire lorsque l'esprit fusionne avec votre corps, d'abord par le cerveau, se produisent progressivement aussi des phénomènes de fusion de réalité. Cela signifie bien évidemment qu'une réalité supérieure future, c'est-à-dire plus évoluée que celle du monde dans lequel vous vivez encore, commence elle aussi à fusionner avec votre réalité actuelle. Cela annonce que votre monde de troisième densité, qui lui est en train de s'effondrer, sera progressivement remplacé par une néo-réalité de quatrième densité, la nouvelle Terre, peu à peu instaurée sur un nouveau paradigme de conscience. Il faut également avoir à l'esprit que le fait de penser est réel et utilise les mêmes mécanismes psychiques et électromagnétiques que les rêves, les sorties hors du corps, les expériences de mort imminente, EMI ou NDE. C'est pour cela que pendant un coma par traumatisme crânien, induisant une fracture dans le champ magnétique à l'intérieur du crâne, les expérienceurs de NDE ne pensent plus par leur cerveau, puisqu'ils ne le peuvent plus. De même que lorsque des gens se dissocient de manière atraumatique, leurs pensées décrochées de leur réalité présente proviennent directement des plans supérieurs. Et lorsqu'elles proviennent de ces plans supérieurs, ces pensées sont affranchies de la dualité, du jugement, donc de l'ego, et ne servent plus qu'à appuyer l'observation temporaire de l'explorateur des mondes. Voir l'exemple avec Eck, lien sur notre site. Durant une expérience de sortie hors du corps ordinaire, c'est-à-dire non traumatique, les individus perdent leur faculté mentale et leur faculté de penser, mais nullement leur conscience. Toutefois, cette conscience qui dès lors est suspendue dans le non-temps, ne pouvant plus réellement être filtrée, fragmentée à travers un cerveau, puisqu'il s'agit du corps éthérique qui se détache du corps physique, les pensées proviennent alors directement des mondes de l'astral, parfois aussi d'un futur déjà réalisé sous forme de souvenirs ou croyances. Ces pensées n'appartiennent dès lors qu'à l'ego de l'observateur. Il s'agit maintenant de comprendre que les pensées sombres, négatives ou malsaines proviennent d'entités prédatrices psychiques de quatrième densité SDS. Même pour les humains bien vivants dans un corps physique, les contenus de leurs pensées ne sont pas la réalité, mais des reflets, des hypothèses, des interprétations de ce qu'ils perçoivent de la réalité ou d'eux-mêmes. C'est donc tout d'abord l'esprit SDS qui, grâce aux mémoires de l'âme inhérentes au monde de l'astral, manipule la psyché de l'homme. Mais la plupart des individus ordinaires ne sont pas capables d'admettre cette vérité, puisqu'ils restent complètement inconscients de ce phénomène. C'est ainsi qu'en troisième densité, les pensées sont induites, suggérées et projetées dans la psyché humaine par des prédateurs issus de la quatrième densité SDS afin de servir la matrice. Nous vous le répétons encore, les pensées que vous croyez être vôtres ne sont quasi jamais vos pensées. Mais la perception brute de la réalité du moment présent vous empêche de figer exagérément vos perceptions habituelles en règles mentales immuables et rigides. Pour cette raison, la distance en rapport à votre activité mentale et votre réalité née de l'observation intérieure vous empêche de vous enfermer dans le cadre strict de la pensée, vous procurant en retour une plus grande flexibilité de pensée et d'action donc une plus grande liberté d'être et par là même augmente votre fréquence de résonance. Votre réalité, née de l'observation intérieure, vous autorise ainsi à vous préserver des émotions liées à des convictions, qu'elles soient conscientes ou profondément inconscientes. Ce mécanisme psychique vous prémunit également de vous identifier à des versions de vous-même qui ne sont que des histoires mentales faites de pensées, d'images et de réactions automatiques provenant de vos vies passées dans des mondes astralisés. Et c'est grâce à ce mécanisme que vous vous préservez de la lutte fatigante qui s'ensuivrait pour maintenir, valoriser, améliorer toutes ces versions de vos vies passées. C'est également de cette manière que vous vous préserverez de la dévalorisation de soi ou à l'inverse, de la haine de ce qui vient mettre en doute votre version des faits. En outre, l'observation intérieure telle que vous la pratiquez lors de vos partages est une démarche de vérité pragmatique. L'auto-observation vous apportant du recul, elle vous autorise alors à voir ce qui dans vos actes, vos gestes, votre mental et vos paroles fait s'élever votre être-té ou au contraire ne la fait pas progresser. Cette distinction entre l'attention consciente et le mental, et plus globalement ce recul par rapport à la pensée, est un enseignement qui se retrouve dans de nombreuses approches de la psychologie moderne. Il en est de même dans l'approche cognitive de la psychologie bouddhiste, ou celle de la vague de thérapie cognitive et comportementale comme thérapie d'acceptation et d'engagement destinée aux dissociés pathologiques et autistiques. Toutes ces approches reflètent des processus psychologiques très souvent d'origine transdimensionnelle. Mais les comprendre ne suffirait pas à les intégrer à votre façon d'être. Encore faut-il les mettre en pratique afin de vous habituer à vous décrocher de vos pensées astralisées et les distinguer de votre activité mentale supérieure exprimée par la conscience qui, elle seule, est véritablement capable d'accueillir ces phénomènes mentaux comme faisant partie des acquis de vos pratiques de non-attachement à l'activité mentale.
Question à l'ange. Nous avons bien compris que les dirigeants de l'État profond mondial cherchent à réduire la population planétaire en utilisant le prétexte qu'il faille sauver la planète. Alors, notre Terre retournera-t-elle aussi à l'état de centre de poussière comme Dankyar, Mars, la Lune ou comme d'autres étoiles astralisées de notre système solaire ?
Venu des profondeurs du cosmos, le système prédateur a pour objectif de maintenir l'humain durant toutes ses vies sous son emprise afin de pouvoir utiliser et se nourrir de son énergie. C'est la raison pour laquelle ce système incite et encourage les guerres entre peuples. Mais ces entités prédatrices ne dirigent jamais l'issue des conflits et ne se préoccupent en aucun cas de l'issue des batailles. Elles se contentent tout bonnement de se sustenter de leur énergie dense et lourde, c'est-à-dire du malheur, de la détresse, de l'angoisse, de la peur générée par la mort rôdant dans les familles. Les humains ordinaires, ignorant la puissance psychique du corpus hyperdimensionnel SDS, sont captifs de ce prédateur qui est accepté comme leur maître, leur dieu. Ce système de croyance est instauré par ce même corpus qui gouverne tous les dirigeants de la planète, quel que soit le camp auquel appartiennent les nations qui s'opposent. Son mécanisme a su rendre l'humanité faible et obéissante en étouffant toute chance de protestation, de contestation, de rébellion contre les dirigeants des nations et l'empêche fermement d'être libre. L'humanité est prisonnière de l'astral par ses croyances qui la poussent à manifester ou à lutter pour la liberté et pour la paix sur la terre. Ignorante de cette vérité, elle restera donc prisonnière de l'astral de troisième densité et s'obligera à se réincarner encore et encore jusqu'au moment où elle finira par comprendre ou alors disparaître. Les prédateurs hyperdimensionnels SDS retiennent l'humanité ordinaire sous verrou parce que les gens ordinaires constituent leur source de subsistance. Ils ont besoin de gens ignorants pour se nourrir, c'est-à-dire pour se maintenir en quatrième densité du service de soi et préserver leur fonction de gardien de la matrice. Mais ce que les gens qui se prétendent spirituels ne comprennent toujours pas, c'est que si l'individu parvient à fusionner avec son soi supérieur, autrement nommé son esprit, il n'aura plus besoin de se réincarner dans des corps de chair densifiés, ne se donnera plus en pâture au système matriciel prédateur mais poursuivra son cursus évolutif à travers un nouveau corps éthérique qui, lui procurera toutes les sensations d'un corps densifié. Il se sentira alors bien vivant dans une autre réalité, libéré de la matrice de croyances inhérente au service de soi, comme il la connaissait auparavant. Il pourra alors faire l'expérience simultanée de quantité de réalité et monde, et cela, qu'il y soit sous une apparence féminine, masculine ou androgyne. Et c'est pour vous préparer au changement de densité que certains parmi vous avaient été prédisposés à expérimenter la triplicativité, puisque dans l'ancien monde astralisé par la dualité, ce mode de fonctionnement n'y était pas accepté. La stupidité du système de croyances duelles et l'incohérence du comportement humain qui, par automatisme, essaye par tous les moyens de se sauvegarder font que les prédateurs sont arrivés à imposer à l'homme ordinaire leur système matriciel avec leurs propres idées à propos du bien et du mal. L'humanité a été emprisonnée de cette manière dans des mœurs sociétales préconçues et irrémédiablement figées. En suggérant à l'humain l'espoir d'un avenir meilleur, en générant en lui des attentes, des rêves de liberté, des fantasmes en tout genre, il maintient sa psyché dans l'illusion matricielle, entraînant ainsi de la frustration, de la jalousie, de la possessivité. Ces prédateurs hyperdimensionnels avaient remplacé l'esprit de l'homme par le leur, qui, lui, est versatile, incohérent, grossier et hanté par la peur d'être découvert. Mais pour le moment encore, leur intelligence est souveraine, efficace, assez compétente et sagace pour s'assurer de l'obéissance, de la docilité et de l'apathie de l'individu ordinaire. Pourtant, de plus en plus d'individus comprennent déjà que le plus souvent, leurs pensées ne viennent pas de leur cerveau, que quelque chose pense pour eux et les empêche de penser par eux-mêmes. En train de se réveiller, cette infime partie de l'humanité commence à comprendre que son état d'endormissement arrange bien les gouvernements. Conditionnée dès l'enfance par les programmes scolaires, éducatifs, religieux, politiques, tout le monde arrivait finalement à penser de la même manière. C'est ainsi qu'au niveau de l'élite mondialiste, l'objectif du corpus SDS était non pas de vous apprendre à penser par vous-même, mais de vous hypnotiser pour mieux vous contrôler. Le gouvernement secret mesure parfaitement le pouvoir créatif des pensées. C'est pour cette raison qu'il empêche les gens de se poser avec eux-mêmes pour trouver le temps de réfléchir. Et il le fait habilement par les médias, en créant de fausses réalités, de faux besoins, et en inventant sans cesse de nouvelles technologies virtuelles afin de les couper de leur intimité avec la nature. Et par les programmations vibratoires, génétiques et les conditionnements psychiques qui en résultent, il engendre de fausses croyances que l'individu ordinaire prend pour la vérité. En réalité, l'ego humain ne pense même pas pour lui, mais pour la société dans laquelle il vit. Son aveuglement l'empêche de se poser des questions, de réfléchir, l'empêchant même de penser par lui-même. La société humaine est malade de ses croyances limitantes et limitées qui l'enferment constamment dans des mémoires passées et astralisées. Et tant que l'homme n'aura pas conscience de cette vérité, il ne remettra pas en cause son système de pensée. Et tant qu'il ne consentira pas à débuter un véritable travail intérieur afin d'intégrer l'esprit, la Terre continuera à se dépeupler. Car une planète sans conscience, sans intelligence véritable, comme l'était devenue Donkiar après le départ des planificateurs de vie, est destinée à redevenir poussière. Voir la chronique 19, le lien sur notre site. La raison profonde de la dépopulation de la Terre est tout bonnement à mettre en rapport avec la diminution de l'intelligence et de la conscience de l'homme. Mais les individus qui s'engagent pleinement à changer de conscience, à rechercher la connaissance, à redevenir intelligents, verront peu à peu leur environnement se modifier et se séparer des fréquences de l'astral. Leur réalité deviendra autre parce qu'ils fusionneront avec leur esprit du futur. Certains initiés nomment ce phénomène de voyage dans l'espace temporel « voyage séraphique ». Lors de la chute de l'Atlantide, ce voyage dans le temps fut initié puis conduit par les Kachina. Ces derniers étaient l'esprit de certains individus meneurs qui, ensemble, avaient réussi à former un nouveau centre de conscience et avaient permis à certains de leurs compatriotes de débarquer sur ce qui deviendra leur nouvelle terre, leur nouvelle réalité. Pour ces Atlantes, en l'occurrence, cette nouvelle réalité se manifesta dans la matière lorsque le continent Atlantis, sombrant dans l'océan Atlantique, refaçonna la tectonique des plaques continentales de l'Europe. Les humains du futur devront donc reprendre le contrôle de leurs pensées et s'émanciper de leurs croyances pour se libérer de leur conditionnement, reprendre le pouvoir sur leur propre vie et se réveiller à une nouvelle conscience pour produire une nouvelle réalité matérielle. Dès aujourd'hui, ce nouveau paradigme est déjà possible, car vous êtes aidés par les changements vibratoires de la planète et les virus cométaires qui accélèrent les guérisons de l'intellect humain. Les voyageurs temporels chevauchant l'onde de changement ne sont pas revenus du futur pour faire du tourisme. Ils sont revenus reprogrammer votre génétique pour créer une nouvelle race humaine plus intelligente et plus créative afin qu'elle aussi puisse à l'avenir coopérer avec le clan des planificateurs et créateurs de monde. Alors, chers étudiants de l'écoléo, ne restez plus victimes de vos pensées, de vos croyances, de vos émotions. Continuez d'apprendre à maîtriser votre mental, vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos actes, et redevenez maître de vous-même. Progressez vers une vie plus heureuse et redevenez créateur selon vos intuitions. Même si vos impulsions créatives ne sont pas toujours logiques, soyez simplement honnête avec vous-même et avec autrui et émancipez-vous de l'opinion des autres. Continuez à être intègre dans la communication et ayez le courage d'exprimer vos ressentis sans faire perdurer des croyances astralisées afin de donner à autrui le meilleur de vous-même. Transmis par Sand
et Général.